Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Quelqu'un disait, avec beaucoup de sagesse, que on sait la valeur des gens à leur façon de s'adresser aux plus faibles, à leur façon de s'adresser à ceux qui n'ont jamais de pouvoir sur eux et qui n'en auront pas. Et les enfants sont vraiment tout particulièrement à cette place. Alors on peut les arroser de cadeaux, mais si on les regarde pas, qu'on les écoute pas, qu'on leur demande pas sincèrement comment ils vont et qu'on leur n'écoute pas sincèrement leurs réponses, je crois qu'ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est un achat en fait.
Vous avez déjà culpabilisé de ne pas pouvoir payer quelque chose à votre enfant? Ou à l'inverse, d'avoir l'impression de trop le gâter? Le monde de l'enfance, c'est un monde d'innocence, d'insouciance, où l'on ne compte pas. Mais les enfants, eux, évoluent aussi dans notre réalité. Une réalité où la thune structure, dessine, empêche ou déforme parfois nos vies et nos projets. En un mot, l'argent fait-il le bonheur des enfants? Et si oui, combien en faut-il? Caroline Goldman, la pédopsie préférée des Français, nous a donné quelques pistes. Bonne écoute!
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Caroline, tu es psychologue pour enfants et adolescents, tu es docteur en psychologie de l'enfant, tu reçois des enfants depuis 20 ans et tu as lancé il y a quoi, 6 mois, 8 mois, un podcast qui cartonne et qui fustige entre autres les dérives de la parentalité positive et qui essaie de faire le ménage entre ce qu'on garde et ce qu'on rend.
C'est tout à fait bien dit.
Merci.
Et ça n'est pas sans rapport avec l'argent d'ailleurs, avec le mouvement de dépenses et de récolte de l'argent.
Est-ce qu'à ton avis, l'argent, c'est un sujet d'adulte?
Oui, absolument. C'est absolument, totalement un sujet d'adulte parce que précisément, l'enfant ne produit pas et ne récolte pas sous ce format. Il est dans des considérations affectives et de quête de sens, mais pas dans des considérations de maniement matériel de la vie.
Et donc, à partir de quel moment, s'il y en a un, on se met à devenir cet adulte qui, justement, intègre dans son concept plein l'argent?
Moi, je crois que c'est vraiment extrêmement lié à la culture familiale et environnementale. Il y a des familles pour lesquelles l'argent n'a quasiment aucune existence comme ça symbolique. Ça ne plane pas sur les interactions parents-enfants. Vraiment, où ça peut même être complètement tabou. Hein. Moi, je me souviens pas avoir entendu parler d'argent pendant toute mon enfance et mon adolescence. Moi, c'était pas tabou, mais je pense que c'était pas une valeur qui était mise en avant et présentée. Par contre, bien d'autres l'étaient. Hein. Par exemple, survivre dans la nature, partager, être généreux, s'intéresser aux autres, élaborer le fonctionnement psychique. Bon, et puis, on rencontre l'argent au gré de nos propres besoins.
Mais est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à préserver un enfant de ce rapport à l'argent pour peut-être préserver aussi l'enfance, pour donner une bonne éducation? Je ne sais pas si ça fait sens.
Je crois que ça dépend du système de valeurs de la famille, puisqu'il y a des gens pour lesquels l'argent est très important, et je respecte absolument cette valeur en tant que telle, à partir du moment où elle ne chasse pas celle auxquelles j'accorde plus d'importance, par exemple celle de l'altérité, du don de soi, de l'idée de prendre soin de soi, etc., que je place un peu au-dessus quand même, et puis de la conscience aussi du monde, de ses besoins, bon. Mais ça dépend aussi beaucoup de la façon dont ses parents cohabitent avec l'argent. Je suppose évidemment que quand c'est une grande douleur au quotidien pour des familles, il est difficile de leur dire de faire complètement abstraction de cette réalité dans leur discours. Mais bon, quand même, le mieux, c'est de ne pas alourdir les enfants de ce qui nous alourdit. Ça, c'est sûr. de façon générale, que ce soit à propos de l'argent ou de n'importe quel habillage de contenu, par exemple les conflits conjugaux. On peut être mal dans son couple et on n'est pas obligé d'en parler à ses enfants.
Quel âge ont les enfants que tu reçois ?
Je reçois des enfants entre 1 an et demi et 25 ans. Si on peut considérer qu'à 25 ans, ce sont toujours des enfants. Mais ce sont des enfants au sens filial. C'est-à-dire que moi, je reçois des problématiques parents-enfants. Donc à partir du moment où les enfants, entre guillemets, continuent à vivre chez leurs parents, je me sens concernée par une possibilité de les aider, quoi.
Ah oui, donc il y a éventuellement une question d'autonomie financière qui peut être complètement en jeu dans la catégorisation de tes patients.
Oui, en tout cas, l'argent peut commencer à faire symptôme chez mes patients.
Est-ce que les enfants te parlent spontanément d'argent ?
Non, sauf si ça revient beaucoup dans le discours des parents, mais là encore, ça vient toujours métaboliser autre chose. En psychanalyse, on observe que l'argent peut venir cristalliser des considérations narcissiques ou autour du manque chez les enfants. Narcissique parce que c'est un tuteur de valorisation ou de dévalorisation, en avoir ou ne pas en avoir plus ou en avoir moins que les autres. Il peut aussi venir métaboliser le manque. Winnicott, qui est un auteur très cher de notre référentiel psychanalytique, disait que le voleur cherche sa mère. Bon, c'est un peu grossier parce que il n'y a pas que la mère derrière la mère de la littérature de psychanalyse au XXe siècle. En réalité, il y a tout l'environnement précoce et proche de l'enfant. Mais donc, effectivement, quand les enfants parlent beaucoup d'argent, parfois, ou quand ils en volent, parfois, en fait, il signifie que l'objet leur échappe et c'est d'objets d'amour dont il s'agit en réalité.
Tu penses qu'en fait, ça pourrait être une sorte de...
Déplacement
symbolique.
Oui.
On dit qu'on cherche de l'argent ou on se dit
Exactement.
Qu'on cherche de l'argent. En fait, on cherche de l'amour.
Voilà, et ça, je pense que tous les notaires donneraient raison à cette linéarité, hein, parce qu'ils disent bien que... Enfin, il se trouve que ma vie personnelle m'amène à fréquenter pas mal le monde du notariat. Donc, j'interroge pas mal de notaires et ils me disent que vraiment, il n'y a aucune corrélation entre la ferveur avec laquelle les gens s'arrachent les héritages et la réalité de ce qu'ils pourraient en tirer sur le plan financier matériel.
Ouais.
Aucune corrélation. L'argent métabolise des nourritures affectives reçues, pas reçues, avec lesquelles on règle ses comptes en fratrie, dans la fratrie, etc., en famille.
Ouais. Oui, c'est ce que nous disait d'ailleurs le notaire qu'on avait interviewé en substance, c'est que l'argent charrie beaucoup de manques, de failles, d'enfants préférés.
Oui,
ouais.
Et de revanche.
Et de revanche. Et
en fait, les enfants règlent leurs comptes sur l'amour reçu à travers l'argent.
Régler ses comptes.
Absolument.
Faire payer.
Absolument.
Est-ce que l'argent a un poids dans les thérapies de l'enfant ? Est-ce qu'il a une importance symbolique quand le parent paye à la fin ?
Ouais, bon, déjà, l'argent permet la prise en charge en libéral, en tout cas, ce qui est, moi, mon statut, hein, parce que je ne travaille pas dans une institution publique. Donc, effectivement, il y a cette transaction d'argent qui permet ou non le suivi. Après, l'enfant lui-même, moi, je pense honnêtement, même si j'ai conscience qu'il y a certainement un biais de recrutement socio-culturel lié au fait que je suis en libéral, donc je n'ai pas accès à tous les enfants de toutes les catégories socio-professionnelles.
Oui, t'as pas des enfants super pauvres.
Non, même si je reçois beaucoup d'enfants de l'aide sociale à l'enfance, mais eux, ils sont pris en charge par l'État. Donc, ils n'ont pas vraiment accès non plus à ces transactions d'argent entre le psy et
la démarche de consultation. De toute façon, par définition, l'enfant, il n'a pas de porte-monnaie. Donc, ça va être ses parents qui payent. Est-ce que ça ne pose pas un souci par rapport à ce qui est convenu normalement dans une transaction thérapeutique, dans l'idée qu'il faut payer son psy parce que du coup, on paye symboliquement aussi quelque chose, on donne quelque chose au psy
Écoutez, il y a un consensus net autour de cette question que personnellement, je n'ai jamais palpé. Je dois être tout à fait honnête avec vous. Tout le monde dit de façon unanime, et je me prosterne humblement devant ce consensus, hein, que payer est fondamental pour guérir. Je n'ai personnellement jamais palpé cette linéarité. Et
t'y crois pas, quoi.
Je m'en excuse platement, vraiment. Hein, à aucun moment, je revendique le fait d'avoir raison. Moi, je vois des gens avec leur souffrance. Alors, évidemment... payer a de l'importance pour celui qui soigne en libéral parce que c'est sa façon de gagner sa vie. Voilà, il faut payer le travail du psy. Et puis, accessoirement aussi, ça cadre énormément les interactions. Parce que sinon, pourquoi ne pas les inviter à passer mes samedis soirs avec eux ? Enfin, où est-ce que ça s'arrêterait, évidemment ? Mais bon, sacraliser absolument le montant, la rigidité du montant, et en faire un moteur curatif, là, vraiment, ça m'échappe. Mais encore une fois, je ne soigne que des enfants. Donc, je pense qu'ils sont un peu étrangers à ces transactions.
Il y a des psys, parfois, qui demandent quand même à l'enfant de donner quelque chose. Toi, tu ne fais pas ça.
Ah non, et je dois dire aussi que j'ai des patients qui ne me payent pas. Des jeunes adultes qui n'ont absolument pas de sous pour payer leur thérapie, des parents qui les ont abandonnés complètement, qui n'estiment pas qu'ils ont suffisamment de valeur et que leur bonheur a suffisamment d'importance pour investir dans leur thérapie. Moi, je me dis, si je les lâche, ils vont vraiment croire que personne ne les soutient. Et voilà, donc je leur fais pas payer leur thérapie, parfois depuis des années. Il y a même un patient qui pense que j'envoie ma facture après chaque séance et je ne l'envoie plus depuis 4 ans. Après chaque séance, j'envoyais ma demande de paiement aux parents par mail et depuis 4 ans, ils ont arrêté de me payer. Et moi, il n'était évidemment pas question que j'abandonne ce jeune qui, honnêtement, n'aurait pas les ressources pour se voir abandonner une nouvelle fois par sa thérapeute, quoi.
Ouais, et tu lui as pas dit ?
Je lui ai jamais dit, non. Pour maintenir l'illusion d'une matrice parentale harmonieuse, soutenante et mobilisée, qu'il n'a plus en réalité.
Et vous n'en parlez pas ?
Je n'en parle pas.
Une question que je me pose, c'est celle des parents séparés, où la pension alimentaire, par exemple, peut être un objet de conflit. Est-ce que ça a une influence sur l'enfant ?
Ce qui a une influence sur l'enfant, c'est l'atmosphère au-dessus de sa tête, le caractère harmonieux ou disharmonieux de sa matrice parentale éducative. Mais ça pourrait parler de cuisson des pâtes ou de l'inscrire ou non au judo, ça aurait exactement la même valeur.
Est-ce que tu penses, malgré tout, que peut-être on peut acheter l'amour d'un enfant ? Parfois, il y a des concurrences, notamment chez les parents séparés, ou parfois ça peut être un grand-parent ou que sais-je, qui va couvrir de cadeaux ou éventuellement même d'argent l'enfant pour se faire aimer. Est-ce que tu penses qu'on peut acheter un enfant ?
Je pense que c'est l'amour. Une illusion à court terme, à très court terme, et certainement très partielle. Je suis fascinée par la sagesse des enfants, par leur perception extrêmement aiguisée des intentions des adultes. Quelqu'un disait, avec beaucoup de sagesse, que on sait la valeur des gens à leur façon de s'adresser aux plus faibles, à leur façon de s'adresser à ceux qui n'ont jamais de pouvoir sur eux et qui n'en auront pas. Et les enfants sont vraiment tout particulièrement à cette place. C'est-à-dire qu'ils sont innocents. Je dis souvent en riant, avec beaucoup de tendresse, qu'ils ne servent à rien. C'est pas très sympa de le dire, mais bon, c'est un peu drôle. Voilà, globalement, ils ne sont pas immédiatement gratifiants. Ce sont des petits êtres dont il faut s'occuper avec beaucoup de patience, d'amour, d'abnégation, etc. Et en fait, ils savent très bien ce qu'il y a dans les intentions des gens qui les entourent. Alors, on peut les arroser de cadeaux, mais si on ne les regarde pas, qu'on ne les écoute pas, qu'on ne leur demande pas sincèrement comment ils vont et qu'on n'écoute pas sincèrement leurs réponses, et qu'on ne les emmène pas à leurs activités scolaires, qu'on n'interagit pas avec leurs maîtres et leurs maîtresses, qu'on ne les emmène pas se faire soigner et qu'on ne leur fait pas les plats qu'ils préfèrent, je crois qu'ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est un achat, en fait, hein, un achat de bonne conscience.
L'enfant est plutôt incorruptible.
Oui, vraiment, fondamentalement, je le pense. Hein.
Est-ce que les différences de niveau de vie chez des parents séparés, ça peut avoir un impact sur l'enfant ?
Moi, je suis convaincue que non, intimement convaincue que non. Je pense que les enfants se fichent complètement du confort matériel qui les entoure. Encore une fois, ça dépend aussi des milieux socioculturels et de l'importance que les parents eux-mêmes donnent, par exemple, aux vêtements de marque, aux attributs de valorisation sociale, au luxe, voilà, c'est ça. Bon, mais ça, c'est vraiment c'est de l'habillage, quoi. Donc, si les parents n'y accordent pas beaucoup d'importance, ça va. Et je trouve aussi que les enfants ne sont pas si difficiles à raisonner que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils veulent tous des baskets de marque connue, des vêtements de marque connue. Mais à partir du moment où les parents leur expliquent, les éduquent, quoi, vraiment, et les responsabilisent sur cette affaire-là, et leur offrent aussi avoir des valeurs, enfin, déplacent ce dans quoi ils investissent de la valeur, et ben, les enfants les suivent bien volontiers. Et quel que soit le milieu.
Quand tu parles de marques de luxe, d'envie d'avoir des belles baskets, bon bah on voit très clairement que c'est l'entrée dans l'adolescence, qui est un moment où l'attribut extérieur de richesse devient un vrai sujet.
Oui, et les conventions aussi, hein, l'alignement aux mêmes marques, aux mêmes vêtements, aux mêmes attributs de valorisation que les autres comptent. Oui.
Moi, j'ai quelquefois entendu des enfants manifester à cet âge-là leur envie d'être plus tard millionnaire. C'est quelque chose qui est un peu identitaire, enfin, qui est une construction de l'adolescence. Pourquoi ça ?
Alors, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a de nouvelles icônes chez nos enfants. Hein, des icônes dont on se serait bien passé. Et peut-être que nos aïeux disaient la même chose des Rolling Stones. Enfin, on va essayer d'être un peu plus sages que notre premier élan nous le souffle. Hein. Mais effectivement, les bimbos de Dubaï refaites et filtrées qui se posent de façon langoureuse sur des voitures de luxe, on est un peu désolé que ce soit les icônes de nos enfants. Effectivement, ils véhiculent l'argent comme valeur suprême et d'accès au bonheur. Bon, là, il suffit d'en montrer des coupures de presse où ils se retrouvent au poste, au commissariat, parce que pour couser blessure, et généralement, ça les fait descendre assez rapidement. Ça vient métaboliser possiblement des problématiques plus intimes, comme la blessure narcissique, la mésestime de soi, ou le manque affectif. Quand on veut absolument des millions, parfois c'est parce qu'on n'a pas de câlin en fait. Hein. Et quand on veut absolument des millions, parfois donc c'est parce que on a été abandonné par son père et pas reconnu par lui, ou qu'on a été abandonné dans un orphelinat et qu'on a attendu un certain temps avant d'être emmené par une famille et qu'on en a tiré quand même l'idée qu'on n'avait pas beaucoup de valeur. Je vois ça dans ma clinique. Hein. Quand l'obsession reste, c'est qu'il y a un soubassement psychopathologique, une fêlure, quoi, dans la construction.
C'est quoi un enfant pourri gâté ? Il y a cette idée qu'on peut trop gâter les enfants, matériellement.
Avec ce que veut dire gâté, quand même, parce que gâté, ça réfère aux fruits gâtés, donc aux fruits pourris, quoi. Hein. C'est vilain, quand même. L'enfant gâté, il existe partout. Enfin, dans la mythologie, moi, je me souviens des enfants gâtés de Roald Dahl. On n'a pas envie d'avoir des enfants comme eux, quoi.
Pourtant, le sale gosse dans Charlie et la chocolaterie, ouais. qui est tout gros, qui fait que manger, bon, et à qui on permet tout.
Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est la métaphore, encore une fois, d'un autre type de gâterie excessive, c'est-à-dire l'absence de limite éducative. Et on y retourne. C'est un sujet qui me passionne.
Ouais.
Bah oui, parce que l'enfant à qui on ne dit jamais non sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'on gave de hamburgers, de chips, de soda, parce que c'est ce qu'il veut, évidemment, son palais va se diriger plus facilement vers ce genre de nourriture, et qu'il obtient tous les jeux vidéo, tous les vêtements de marque qu'il veut, bah, c'est pris dans tout un tableau éducatif qui, globalement, consiste à ne pas le frustrer. C'est-à-dire, je veux interrompre la maîtresse pendant les cours, je veux mordre ma babysitter parce qu'elle m'a dit non, je veux...
Ce qui est très compliqué, c'est qu'en même temps, tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils veulent leur assurer une sécurité, y compris matérielle, les mettre à l'abri du besoin, qu'ils ne se retrouvent jamais en situation d'insécurité financière et peut-être même de manque. Et cet équilibre très délicat entre couvrir éventuellement de biens matériels ou en tout cas de sécurité matérielle un enfant et en même temps lui permettre une autonomie, des limites, c'est pas du tout évident en fait.
Bah, heureusement quand même, les gens ont du bon sens. Hein. C'est-à-dire la grande majorité des parents éduquent correctement leurs enfants et...
Moi j'ai des potes qui... je crois que j'ai des potes maintenant, les fils de potes qui sont ados ou grands ados et... Parfois, on les voit glander chez leurs parents. Ils savent quelque part qu'ils n'auront pas de problème financier. Tu vois, et pourtant, ils ne sont pas mal éduqués. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, ils savent qu'ils ont tant de milliers d'euros sur un compte ou que leurs parents pourvoiront.
Est-ce que vraiment ça les intéresse, ça ? Est-ce que ça a un vrai impact sur leur décision de vie, leur bonheur, etc. ? Moi, je ne crois pas. Hein.
Nous, dans les entretiens qu'on fait, on questionne toujours l'enfance, le contexte familial. Et c'est vrai que la dalle, la vraie dalle, donc le manque, hein, est quelque chose qui peut revenir comme étant un facteur de motivation. Mais c'est quelque chose qui est analysé à l'âge adulte. Mais oui, le manque, en tout cas, moi, il m'a semblé que ça pouvait être un moteur.
Ça peut être un moteur et ça peut être aussi un destin qui se répète et qui accable. Et ça peut aussi venir générer un conflit de loyauté à faire mieux. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne pourront jamais dépasser la chute matérielle de leurs parents par conflit de loyauté aussi.
Pour reproduire un schéma parental, oui.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que mes parents se sont plaints, se sont désespérés de manquer. Je ne supporterais pas, sur le plan de la culpabilité, de faire mieux qu'eux et de réussir là où ils ont échoué.
Les enfants entendent toutes les souffrances, y compris liées à l'argent des parents.
Oui.
Qu'on leur dise ou qu'on leur dise pas, qu'on en parle devant eux ou pas.
Oui, c'est ça. Ils sont contaminés par la souffrance, mais encore une fois, leur habillage est assez secondaire.
Ah oui, ils entendent la souffrance.
Oui.
Que ce soit une souffrance matérielle ou une souffrance psychique ou les deux.
Oui, ça ne fait pas vraiment de différence sur le plan de l'impact. L'impact de la souffrance parentale, c'est la souffrance infantile. C'est-à-dire chute d'humeur, manque d'engouement, manque de désir, chute scolaire, pleurs, difficulté à investir des liens d'amitié, et puis hyper empathie déraisonnable, fantasme d'étayage inversé, c'est-à-dire avec des fantasmes de mission, de relever le parent de sa peine. C'est très lourd. Mais que ce soit des problèmes d'argent qui propulsent les parents dans la peine, ou d'autres problèmes, hein, par exemple des conflits conjugaux, parce que c'est quand même un grand vivier classique de détresse infantile, hein. Finalement, ça ne fait pas vraiment de différence. Hein.
Je reviens aux parents d'ados, justement, on parlait de billets, peut-être qu'il y en a un léger. Ceux qui disent non à leur enfant qui peut vouloir un survêt Nike, peuvent culpabiliser à certains moments en se disant « mince, ce serait quand même sympa qu'il soit comme les autres et tout ». Il faut se foutre la paix
Il faut surtout dire non autant qu'on veut, en fait. Hein. Évidemment, il ne faut pas être bête et buté et toujours offrir la même réponse, que ce soit oui ou non. Mais je crois que dans l'éducation, il faut absolument apprendre les bornes de leurs désirs aux enfants. C'est-à-dire que ne cesse jamais de désirer, ne cesse jamais d'être habité par un esprit critique et par la connexion à tes plaisirs et à tes désirs. Mais par contre, parfois c'est oui et parfois c'est non. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. Hein. Et ça les outille parfaitement au code de bienséance, à l'ajustement, aux contraintes du réel. Donc il ne faut absolument pas hésiter. Et je crois aussi que le ton sur lequel on leur dit non est très important. Parce que si on leur dit non en frétillant du menton, en ayant les larmes aux yeux, et en délivrant l'idée comme ça qu'on les accable et qu'on les tue, c'est pas du tout la même saveur que dire « tu t'achèteras ton jogging Nike quand t'auras lavé plein de voitures et fait plein de babysitting, et en attendant, tu vas sortir les poubelles. » Bon, ça passe mieux, quoi, avec de l'humour, de la légèreté.
Et des poubelles.
Ça, c'est un point intéressant, la rémunération de l'enfant. Quand, sous quelles conditions, enfin, j'ai l'impression que t'es pour, du coup, hein, je te pose même pas la question.
Je peux vous répondre vraiment en mon nom. Qui n'engage que moi et qui, je ne prétends à aucun moment que ça a valeur de vérité ou de leçon, surtout pas, parce qu'il y a des variations qui m'échappent certainement complètement dans cette histoire. Mais moi, j'élève mes enfants comme on m'a élevé, en disant « si tu as besoin de sous, tu vas dans mon portefeuille et tu te sers ». Et j'ai remarqué que, moi, en l'entendant de la bouche de mes parents, que ça m'a flanquer un sens de la responsabilité, de la loyauté et un pacte, ça a généré un pacte de confiance entre nous monumental. Compte tenu du fait qu'il me faisait confiance, je ne pouvais pas malmener cette confiance. C'est-à-dire que tout à coup, j'étais co-responsable de l'argent qu'il y avait dans leur porte-monnaie. Voilà. Et donc, je me sentais très gratifiée par cette confiance qu'ils m'accordaient. Et donc, jamais j'aurais pu en abuser. Après, bon, j'avais une bonne structuration psychique. Ça a évidemment participé aussi à faire en sorte que ça se passe bien. C'était l'aboutissement d'un bon passé structurel, quoi. Mes enfants, je leur ai toujours dit ça. Et d'ailleurs, ils me regardent et ils me disent, mais quand même, quand on a cette première interaction avec chacun d'eux, ils me disent, mais maman, t'es sûre? Enfin, quand même. Mais alors, ils essayent, ils explorent. Mais si j'ai envie deux jours de suite, et je les regarde, je plante mes yeux dans leur regard et je leur dis, mais je te fais confiance, tu vas doser, tu vas être raisonnable, etc. Voilà, le pire qui m'est arrivé, c'est que ma troisième fille de 11 ans a acheté des chips pour le goûter avec une copine au supermarché, quoi. Bon, C'est pas vraiment ce que j'appelle une transgression. Alors je lui dis évidemment, écoute, les chips pour le goûter, c'est vraiment pas terrible sur le plan diététique, mais je l'empêche pas et du coup, ça circule, je sais pas, dans la confiance et la bienveillance, quoi. L'argent ne devient pas une, je sais pas, un outil de défiance, de rétention. Voilà, c'est ça qui, comme la nourriture, hein, peut le devenir aussi sur certaines scènes éducatives.
Tu penses qu'on pourrait appliquer quasiment les mêmes termes de boulimie, anorexie aux finances ?
Ouais, c'est une bonne question. Je dirais plus largement, parce que c'est difficile de manier les termes boulimie, anorexie, transportent beaucoup, beaucoup d'autres dimensions. Mais je dirais globalement que, effectivement, l'argent vient cristalliser des mouvements d'investissement relationnels, voilà, et pulsionnels. Ça vient cristalliser des pulsions et des intentions relationnelles, voilà.
Moi, je me pose toujours des questions sur l'interprétation éventuellement psychologique de l'épargne. Épargner, avoir de l'argent qui est sur son compte, qu'on ne dépense pas. Alors, moi, j'y vois plusieurs choses un peu bêtes. Tu vois, par exemple, c'est quand même l'idée qu'éventuellement, on ne meurt pas la semaine prochaine, parce que sinon, ou demain, parce qu'on mourra avec de l'argent qu'on n'aura pas dépensé. C'est aussi tout le potentiel qu'on n'a pas encore réalisé de ce qu'on pourrait en faire, et qui peut être très agréable, parce que tant que ce n'est pas réalisé, ça permet beaucoup de rêves. C'est aussi, éventuellement, se dire « Oh, en cas de coup dur, tout ira bien ». Il y a plein de choses.
Je vois surtout un filet de protection que les figures parentales n'ont pas constitué. Là, spontanément, c'est ça qui me vient. C'est-à-dire ne garder de l'argent et ne pas le dépenser au cas où, ben en principe, c'est la fonction des parents, ça, de sécuriser au cas où, d'être là en cas de pépin. Donc il y a quelque chose, moi je trouve ça un peu tristoun, quoi. Je me dis que les parents n'ont pas fait leur boulot de sécurisation matérielle et psychique.
Alors bon, en psy, hein, la grande théorie originelle, c'est celle de Freud, hein, sur l'argent, qui, on en a déjà parlé dans Thune en plus, qui identifie l'argent au caca, à la merde. D'après ce que j'ai compris, c'est l'idée que l'enfant petit veut offrir ce qu'il produit, ce qu'il a de plus cher à sa mère, et bon, bah, ce qu'il produit, ce qu'il a de plus cher, c'est son caca. Et ça serait, ça deviendrait plus tard ce que devient l'argent. Symboliquement, on offre ce qu'on a de plus cher de l'argent. Est-ce que tu as un regard sur la théorie freudienne qui identifie l'argent aux excréments ?
Aux fesses, on dit dans le jargon. Alors, c'est hyper intéressant. Il faut se représenter la rencontre mère-bébé. Alors, on parle de mère dans la littérature psychanalytique du XXe siècle, encore une fois, parce que c'était les mères qui étaient au plus près des bébés, mais peu importe l'identité du parent, ça peut évidemment tout autant être un papa, parce que maintenant, les rôles sont un petit peu mieux répartis, bien que ce soit pas encore complètement le cas, ou n'importe quel éducateur. Donc, on va parler de la mère, mais c'est le parent numéro un, quoi, en gros, hein. Donc, il avait identifié que la mère était très intéressée par ce qu'avalait son bébé et ce qu'il rejetait, quoi. D'accord ? Bon, je pense à Amélie Nothomb, là, qui avait écrit un bouquin « Métaphysique des tubes », enfin, en le justifiant par le fait que bon, le bébé, c'est quand même pas mal un circuit de
ingestion, d'éjection.
Ingestion, d'éjection, merci beaucoup. Voilà, et donc, les mamans attendent les cacas. C'est ainsi, alors, pas toutes les mamans, moi je fais partie de la deuxième catégorie, ça ne m'a jamais intéressé le moins du monde, mais il se trouve que les mères, enfin les parents, sont passionnés par les cacas des enfants. Et d'ailleurs, quand on a fait garder un bébé à la crèche, on se rend compte que c'est la première chose dont nous parlent les auxiliaires de crèche. Il a fait deux fois aujourd'hui. Et moi, donc, pour chacun de mes enfants, je leur dis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas me parler de ça ? Ça ne m'intéresse pas, en fait. Non, mais vraiment, c'est singulier, hein ? Voilà. Donc, j'ai été obligée d'intercepter cette réalité que l'attente du caca est absolument majeure et universelle, quoi. L'attente du caca du bébé. C'est une dimension que j'ai découvert en cours de route, moi, au détour de ma parentalité. Je trouvais la théorisation freudienne très tirée par les cheveux. J'avais du mal à me l'approprier, quoi.
Tu trouvais ça un peu chelou? Tu voyais pas le rapport?
Bah non. Enfin, en quoi faire caca fait plaisir à la mère? Vraiment, c'est une notion qui me dépassait complètement. Et j'ai compris qu'en fait, toute la société, toute la culture attendait le caca du bébé, quoi. Donc là, je me suis dit, ah bah, j'ai reconnecté les éléments. Je me suis dit, mais effectivement, le bébé doit le sentir, ça. Alors, il le sent si c'est le cas, ok ? Moi, mes bébés, je ne m'intéressais pas du tout à leur caca. Bah, du coup, ils n'ont jamais cristallisé de symptômes autour du caca. C'est un très haut lieu de cristallisation des symptômes, y compris dans l'enfance. Hein. Les troubles de la digestion, c'est incroyable le nombre de patients que j'ai avec des troubles de la digestion. Et immanquablement, les parents sont passionnés par ça.
Mais quel rapport avec la thune ?
Alors, bah, justement, c'est effectivement l'espoir de le voir arriver... Hein, par la mère, premier parent, la gratification de le voir arriver, donc qui déclenche de la satisfaction chez le parent, fait encore une fois que j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier en théorie. Hein. Et donc l'enfant sent qu'il a un pouvoir, c'est ce que décrivait Freud précisément, qu'il a un pouvoir de satisfaction ou d'insatisfaction sur la mère au gré de son relâchement sphinctérien ou de sa rétention. Quoi. Et c'est extraordinaire de se dire... que ça a imbibé le langage. On fait chier l'autre, on l'emmerde. C'est-à-dire que soit on diffuse et on gratifie, soit on retient et on embête, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça a infiltré le langage. C'est très, très particulier d'utiliser ces mots pour signifier de plusieurs façons, en fait, qu'on embête l'autre, qu'on agresse l'autre. L'agression, et on parle, nous, en psychanalyse, de stade sadique anal. Alors, c'est pas un sadisme pur, comme on peut l'entendre connoté chez les adultes, mais il y a chez tous les enfants, dans la phase d'appel de limite éducative, donc entre 1 an et 3-4 ans, il y a un stade comme ça d'agressivité qui appelle les limites et qui éclabousse tout, quoi.
Et les adultes, avec l'argent, ils reproduiraient ce qu'ils faisaient petit avec leur caca.
Bah oui.
C'est ça l'affaire.
Bien sûr, bien
on
sûr.
Retient ou on lâche.
Ou on souille. C'est les deux façons de faire chier, entre guillemets, d'emmerder le monde. C'est soit de souiller, de salir, de mettre du caca partout.
Mais d'ailleurs, il y a l'idée que l'argent éventuellement souille. Il peut salir, il peut corrompre. Ouais. L'argent corrompt.
Oui, c'est vrai.
Et donc, cette vieille idée reçue, quand on dit que quelqu'un qui est constipé serait peut-être radin.
Oui.
C'est quelque chose que tu valides ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que dans la névrose obsessionnelle, qui est une lutte contre l'agressivité, il y a effectivement des traits de radinerie, de foi religieuse, où le surmoi est très impliqué, et globalement de rétention, de rigidité, de goût pour les chiffres, au détriment des relations, etc. Donc il y a des traits de rigidité qui engagent effectivement ces caractéristiques.
C'est marrant, moi j'ai l'impression que dans ta pratique, alors certes tu travailles avec des enfants, mais tu travailles comme tu disais avec des enfants de plein de classes sociales différentes, l'argent est vraiment très périphérique.
Complètement, mais parce que bien d'autres ingrédients m'intéressent aussi, hein. Il y a des psys qui restent en surface un peu et qui collent un peu à l'habillage du discours. Moi j'ai une formation de psychanalyste, donc ce qui m'intéresse... C'est ce qu'il y a sous les habillages, sous les symboles. Quand un enfant me parle d'argent, je n'entends effectivement jamais parler d'argent. Mais parce que j'ai les schémas de la psychopathologie à l'esprit.
Aujourd'hui, nos enfants peuvent très jeunes emporter avec eux des objets de grande valeur. Et je pense notamment au smartphone. C'est-à-dire qu'un enfant de CM2 ou de 6e qui va avoir un iPhone sur lui, est-ce que trimballer des objets de valeur, ça les responsabilise trop tôt ?
Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont plein de choses de valeur, déjà eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas se faire écraser, de prendre soin d'eux, de ne pas entrer dans les bagarres. Voilà, bon, le smartphone est une continuité du soin qu'on leur demande de s'adresser à eux-mêmes. Donc ça ne me choque pas. Moi, j'ai laissé mes petites à 11 ans avec des téléphones effectivement de grande valeur matérielle en me réjouissant de pouvoir les joindre parce qu'elles traversaient la moitié de la ville tous les matins toutes seules en métro, quoi. Donc je suis plutôt reconnaissante au monde de nous envoyer ces systèmes de sécurité. J'ai du mal à être fâchée avec l'évolution technologique.
Même si tu me dis, voilà, quand j'entends un enfant parler d'argent, je n'entends jamais qu'il parle d'argent. Malgré tout, et j'en profite puisque tu vois des gens de toute classe sociale, comme on l'a dit, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques qui sont impactés par le, voilà, l'univers financier et matériel de l'enfant. Est-ce que les problèmes d'un enfant riche, c'est les mêmes que les problèmes d'un enfant pauvre ?
C'est absolument les mêmes. Il y a une universalité de ce qui fait souffrir et de ce qui rend heureux, qui rend très humble.
C'est pas évacuer la question de des conditions matérielles.
Ben non, parce que enfin, on a tous connu des foyers précaires, pleins de joie, où on avait le sens de la fête, de l'entraide, de la reconnaissance, du désir, du plaisir, des projets, de partage, de la bonne humeur. Et puis on a aussi tous connus des familles richissimes et dans une détresse, dans une misère affective, dans des conflits froids, gelés, immobiles, etc. Non, moi, je suis vraiment convaincue qu'il n'y a pas de corrélation, même si, évidemment, il y a des souffrances qui existent et... Mais je ne les place pas au-dessus des autres, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'une famille... Je parle vraiment du point de vue... Je ne parle pas comme une politicienne ou une sociologue. Je parle comme une psy pour enfants. C'est-à-dire, les enfants, pour être heureux, ils ont besoin d'amour, de tendresse, de limite éducative, qu'on leur exprime notre confiance en eux, d'avoir une grande lisibilité sur leurs origines, qu'on leur explique les phénomènes qui les entourent. Et voilà. Qu'on puisse manger des glaces au chocolat tous les soirs, ils s'en fichent. Qu'on puisse aller à Disneyland, ils s'en fichent. Qu'on ait des vêtements de marque, ça les intéresse deux minutes. Et puis très vite, si c'est remplacé par un câlin ou un éclat de rire, une séance de Gilly ou un super film en DVD prêté par la voisine, bah, ça s'envole aussi sec, quoi. Sauf si les parents, encore une fois, ils mettent eux-mêmes de l'importance ou que ça cache autre chose. Mais je le crois du plus profond de mon cœur, quoi. Je vois les ressorts du bonheur des enfants. Ça ne parle pas de considérations matérielles.
Et pour toi, quand un enfant réclame qu'on lui paye quelque chose, t'es fondamentalement persuadé qu'en fait, il réclame autre chose.
Bah, disons qu'il fait d'abord, il fait son job, il éprouve, il désire, ça c'est fantastique. Donc d'abord, je me réjouis, moi, d'un enfant qui a envie de quelque chose. Bon, sauf si c'est étrangler des chauves-souris, évidemment, hein, mais... Quelle drôle d'idée.
Hyper étrange.
Ah, mais les psychologues reçoivent beaucoup d'idées toute la journée et savent les dégainer quand il est temps. Voilà,
mais
donc...
Ouais, tu dis d'abord, un, il désire, chouette. Deux, on peut lui dire non. Et trois, il est peut-être pas forcément en train de demander ce qu'il formule.
Exactement. Voilà, c'est ça.
C'est ça un peu... Ouais.
Bon, après, il faut pas dire non tout le temps. Hein.
Nous, on a connu déjà des jeux à notre époque qui nous invitaient comme enfants à manier de l'argent. Monopoly, la bonne paye. Aujourd'hui, il y a les jeux vidéo où il y a des monnaies virtuelles et parfois même réelles, puisqu'il y a des cryptos parfois accolés aux jeux vidéo. Est-ce que ça change quelque chose, ce rapport précoce, à notre formation financière ou à notre formation comme enfant ?
Je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, les jeux changent simplement de format. Au cours de mes années de libéral, j'ai eu deux fois à manier l'argent au milieu des symptômes. Une fois, c'était un jeune de 20 ans qui volait la carte bleue de ses parents et pour aller en soirée et puis effectivement s'offrir des points, enfin
des bévues sur Fortnite ou
voilà,
un truc comme ça.
Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Un truc comme ça. Et donc en fait ça s'inscrivait dans un tableau clinique global de manque de limites éducatives. Donc il insultait aussi un peu sa mère à table en lui disant qu'elle avait un grand nez. Voilà, enfin, il appelait les limites qui n'étaient pas entendues, et donc j'ai dit aux parents que ça allait se lever ces symptômes avec des mises à l'écart, avec, enfin, en gros, il l'envoyait dans sa chambre dès qu'il débordait, et il lui prenait ses écrans et que ça allait se réguler. En 3 semaines, c'était réglé et il n'a plus jamais volé d'argent à ses parents. Et j'ai eu un autre enfant qui volait souvent de l'argent à sa famille et à la famille d'accueil. C'était un enfant placé. Et cet enfant-là manquait terriblement d'amour et de tendresse. Et en fait, il voulait de l'argent, certain que ça allait lui procurer des sensations de réconfort qu'en réalité, il aurait dû obtenir et solliciter du côté du lien, quoi. Voilà. Donc j'ai dit à la famille d'accueil, maintenant arrêtez de le gronder quand il vous vole de l'argent, entendez-le comme un besoin de tendresse. Et donc on va multiplier les occasions de lui prouver votre tendresse et votre affection. Donc tous les soirs, après le dîner, on s'installe dans le canapé pour regarder le JT ensemble, bras dessus, bras dessous. Voilà, aller le chercher à l'école, donner-lui des petits carrés de chocolat en plus dans son goûter. Enfin, des petits signes d'amour, des petites preuves d'amour. Et là aussi, le symptôme s'est levé en 2-3 semaines, quoi. Donc il suffit d'appuyer sur le bon bouton, qui est toujours un ressort psychopathologique, pour que la question de l'appétit pour l'argent, en fait... se lève.
Il y a une situation qu'on n'a pas encore évoquée, c'est celle des enfants qui travaillent. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a évidemment les enfants qui n'ont pas le choix ou qui sont issus de familles très pauvres et qui travaillent. Et puis, il y a un phénomène qu'on voit en France parfois. Par exemple, les enfants stars, les enfants influenceurs, les enfants qui gagnent de l'argent, souvent accompagnés ou poussés par leurs parents. Alors ça peut être un enfant qui aime le théâtre, qui se retrouve à avoir des rôles, et voilà, les parents suivent son... Mais bon, tout d'un coup, ils se retrouvent propulsés dans une carrière professionnelle, et ou ça peut être des enfants carrément poussés par leurs parents. En tout cas, ils se retrouvent donc dans une économie d'adultes, alors que, bon, bah, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas forcément...
La maturité affective.
Mais ils ont en tout cas un rapport à une économie tout à fait adulte. Est-ce que tu penses qu'il y a... Là, forcément, c'est le cliché qu'on a en tête. Je ne sais pas si c'est une obligation, une source de traumatisme ou en tout cas un danger.
Ça dépend complètement de l'état d'esprit du parent. Ça dépend du climat relationnel familial par ailleurs, des valeurs parentales. On sait qu'il y a des parents qui exploitent leur enfant comme un petit singe de cirque et d'autres qui mettent en garde, qui protègent, qui maintiennent l'insouciance. Voilà, ça dépend à 100% de ces ingrédients invisibles en fait.
Dans les liens entre argent et psycho de l'enfant, est-ce que tu vois un sujet particulier qui te tient à cœur à aborder ?
Oui, il y a quelque chose qui m'apparaît comme un scandale sanitaire à dénoncer. C'est l'éclosion des coachs parentaux qui sont dorénavant formés en une trentaine de jours et prétendent ensuite pouvoir s'installer et conseiller des parents à la place du travail qu'effectuait autrefois et qu'effectuent encore aujourd'hui, j'espère, les psychologues pour enfants. Je pense notamment aux formations Filiosa qui... coûte 13 475 euros net, permettent en 31 jours donc de prétendre en une formation de coaching parental. Je trouve ça très grave parce que nous, psy, on récolte évidemment les conséquences de ces manœuvres thérapeutiques absolument nébuleuses et mal maîtrisées. Je pense aussi que le succès de ces formations de coaching parental provient d'une demande de la population et est la conséquence plus large d'une dilution de la pédopsychiatrie. Maintenant, on a des réponses quasi exclusivement de rééducation instrumentale et pharmacologique. Donc les enfants prennent beaucoup, beaucoup plus de neuroleptiques qu'autrefois. Et du coup, les parents restent sans réponse à leurs questions en ce qui concerne leur possible mobilisation autour de l'amélioration de la situation de leur enfant.
Alors pour toi, c'est des arnaques, c'est un business ?
C'est du soutien qui n'a pas plus de valeur que le soutien de la boulangère avec son bon sens terrien et sa générosité, quoi. Mais en faire des transactions d'argent me paraît totalement injustifié et scandaleux. Puisque c'est de ça qu'on parle.
Comment ça se fait que ce soit aussi cher ? Pour 13 000 euros et après un mois de formation, c'est ça ?
Qu'on peut payer en beaucoup, beaucoup de fois hein, différentes.
On peut se réinventer, c'est pour enfants, en gros.
Coach pour enfants. Coach parental, c'est ce que vendent en tout cas ces formations.
Et dans ce grand marché, pour les clients, est-ce que c'est le même prix ? Est-ce que si je me dirige vers un coach parental, ça me coûtera moins cher, plus cher qu'une psy ? Est-ce que ça peut être une grille de lecture qui peut me mettre en confusion également ?
Je suppose que c'est à peu près les mêmes prix. Mais de toute façon, c'est scandaleux parce que pour être psychologue pour enfants, on ne peut pas avoir moins qu'un master 2. Donc, c'est 5 ans de travail, de rigueur et de preuves à donner parce qu'on a des mémoires, on doit valider des stages, etc. Donc, on ne peut pas confier... la souffrance psychique des enfants à des gens qui n'ont aucune qualification sérieuse dans ce domaine.
Ouais, donc quand je te demandais, quand je te posais la question, est-ce qu'on peut acheter le bonheur ou le bon développement d'un enfant, t'as l'impression qu'éventuellement, ce marché-là propose ça, est un marché mensonger.
Il est non seulement mensonger parce que la personne qui le prodigue les soins n'est pas qualifiée pour cela, mais il est aussi mensonger bien souvent par le contenu des formations qui racontent vraiment qu'une toute petite portion de la réalité psychique infantile. Et pour ça, je renvoie vos auditeurs à mon podcast sur la critique de l'éducation positive, voilà, où toute la dimension de limite éducative a été complètement rognée. Et donc, ces coachs parentaux, malheureusement, véhiculent à leur tour les aspects très partiels de ces grandes leçons de fonctionnement psychique.
Est-ce qu'une thérapie de l'enfant a une durée ? Moi, j'ai la sensation de voir des parents qui vont voir des psys chaque semaine depuis des années et des années. Donc ça fait évidemment mal au portefeuille. C'est long, c'est chronophage, c'est du temps, hein, évidemment, d'emmener l'enfant à une, voire plusieurs séances chaque semaine. C'est normal, ça ?
Bah, de mon point de vue, non, ça ne l'est pas, mais ça n'engage absolument que moi. Et je me rends bien compte que je suis très marginale dans ma façon d'envisager le soin psychique des enfants. Bon, je suis désolée d'apparaître un peu prétentieuse à travers ce que je vais vous dire, mais en même temps, je suis avant tout honnête. La plupart des enfants que je reçois, je les reçois 3 fois. Mais ce sont des entretiens extrêmement concentrés, extrêmement denses. Et avec une feuille de route vraiment très précise, une méthode d'investigation et de guidance parentale, voilà, que j'aimerais bien partager, démocratiser avec mes collègues, parce que c'est vrai que je souffre de voir la chronicisation injustifiée du soin psychique un peu partout et tout le temps.
C'est un luxe, la psy ?
En fait, le bonheur des enfants est impératif. Et si les moyens d'y arriver, c'est la psy, bah, évidemment, il faut y recourir. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui vont bien et dont les parents sont juste très exigeants et très protecteurs et gourmands de leur bonheur. Et donc, nous les amènent. Et parfois, je leur dis, vous n'avez pas... le droit de revenir. Je ne vous offre pas ce luxe absolu de revenir, à moins que vraiment tout périclite et dégénère.
Ouais, là ça va. Arrêtez la dépense. Arrêtez les frais.
Le second droit d'entrée, quoi.
Voilà, arrêtez les frais, ouais. Ouais.
Parce qu'il va bien et qu'on est dans les variations du normal et que vous êtes juste un peu anxieux. Voilà, mais tout va bien. Et ça suffit bien souvent à les rassurer.
Il y a un vrai truc, hein, sur le développement personnel, hein, l'émergence de toutes ces formations courtes, l'idée qu'on peut investir sur soi-même, l'idée qu'on peut devenir meilleur, que ses enfants deviennent meilleurs, avec la prolifération de tout un vocabulaire un peu clinique ou tiré du clinique, et tout un marché de ça. Toi, c'est vraiment un truc qui est ta croisade fondamentale. Hein,
Moi, j'aime vraiment ce qui marche. C'est-à-dire que si des adultes lisent un livre de développement personnel et en tirent un vrai sentiment de gain de liberté, d'épanouissement et de joie, mais je me prosterne humblement, encore une fois, devant cet état de fait. Par contre, en psycho de l'enfant, ce que préconisent les spécialistes autoproclamés de l'éducation positive qui n'ont aucune qualification en pédopsychiatrie et ni sur le plan académique ni sur le plan du travail clinique effectif, quand ils disent, parfois il y a des hommes aussi, que un enfant en état de crise est un enfant profondément en manque d'amour, blessé, qui a besoin qu'on lui fasse un câlin, je me dis qu'il ferait mieux d'aller vendre des tapis sur Internet, quoi. Enfin, chacun son boulot, en fait. On peut pas prétendre connaître l'appareil psychique et les souffrances infantiles quand on n'y a pas été formé et qu'on ne soigne jamais personne. Enfin, c'est pas possible d'être aussi grossière.
Tu veux dire que la thérapie psychique n'est pas une marchandise comme les autres ?
Non, c'est certain. Et à propos de... Bah, tout ce qui relève du soin n'est pas un marché, ne devrait jamais être un marché. Et à propos de l'argent et de la psycho de l'enfant quand même, et du développement personnel en particulier, Claude Almos, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, avait bien identifié que l'éducation positive telle qu'elle a été véhiculée en France est un marché de la culpabilisation des parents. Et ça, je trouve que c'est vraiment une articulation extrêmement pertinente. C'est-à-dire qu'elle dit que la culpabilité est inhérente à toute parentalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre enfant nous rend dingue et on sent de l'hostilité monter en nous. même dans la plus belle relation parent-enfant qui soit, hein, la plus épanouissante, la plus saine, etc., il y a un moment où l'enfant nous rend dingue et où on ressent de l'hostilité à son endroit. Et elle dit avec beaucoup de justesse que ces spécialistes autoproclamés de l'éducation positive là ont chopé ce moment-là, l'ont isolé et ont appuyé sur la culpabilité des parents en disant là, ce que vous ressentez, c'est pas normal et ça peut générer du trauma. Alors qu'une relation est possible sans aucune agressivité ni ressentie ni reçue. De l'enfant vers l'adulte. Alors ça, évidemment, les parents se disent « En voilà une belle histoire à laquelle j'aspire, qui me fait rêver, et je vais suivre les préconisations de ces spécialistes autoproclamés en achetant leurs livres et en suivant leurs méthodes et en me formant au coaching parental, etc. » Alors que tout ça est un pur mensonge, mais extrêmement prolifique sur le plan mercantile, quoi. Absolument. Ce sont des commerciaux.
Merci, Caroline.
Merci à vous. C'était tout à fait exotique pour moi de parler de tout ça. Ce ne sont pas du tout des sujets que j'ai l'habitude d'aborder. Merci. Et de penser.
Merci, Caroline.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune Podcast. Cet entretien a été réalisé par Laurence Velli et Anna Borel. La post-production en est assurée par Bastien Pironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Pour que Thune continue, n'hésitez surtout, surtout pas à nous laisser de gentils commentaires sur Apple Podcast. C'est pas dur et ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi bien sûr en parler autour de vous. Et enfin, nous avons lancé une cagnotte Tipeee. Parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et ça nous permet de poursuivre. On attend vos éloges et vos critiques sur notre Insta et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que thune continue, je compte sur vous.